Le journal Frédéric Barrère.
Bonsoir à tous. Le Tour de France avec un peloton qui s'emballe dans les cols des Pyrénées et une victoire française lors de cette 8e étape. Le héros est savoyard, il s'appelle Nance Peters.
Ouais, c'est de la folie, c'était un rêve quoi. Voilà, j'ai fait donc c'est fou ouais.
C'est fou, le Tour de France, on y revient dans une dizaine de minutes. Le grand embouteillage des laboratoires d'analyse pour se faire dépister. Olivier Véran, ministre de la Santé, promet que l'accès aux tests sera facilité d'ici la fin du mois. Il faut rester en alerte face à l'épidémie. Les universités d'été des Républicains endeuillées par la mort de l'ancien maire du Havre, Antoine Ruffenac. Au Port-Marly, François Baroin lui a rendu hommage, mais il n'a rien dit de ses intentions pour 2022. Nous irons à Deauville en fin de journal où s'est ouvert le festival du film américain et nous avons également rendez-vous comme tous les samedis soirs avec Christine Siméon pour Ma vie connectée. La météo, demain, soleil et chaleur dans le sud, nuages et fraîcheur sur le reste du territoire, nous dira Jean-Michel Golinski.
France Inter.
C'est l'image que l'on retient depuis déjà plusieurs jours ou semaines devant les laboratoires d'analyse, des files d'attente qui ne cessent de s'allonger pour se faire tester au coronavirus. Il y a embouteillage alors que le gouvernement demande plus de tests et que les cas de contamination ont battu un record hier avec près de 9000 personnes contaminées en 24 heures. Olivier Véran, ministre de la Santé, explique qu'il faut rester en alerte et surveiller le nombre d'admissions en réanimation. Olivier Véran annonce également que l'accès aux tests sera facilité, Véronique Julia.
Olivier Véran reconnaît qu'il y a embouteillage aux portes des labos, mais il y a eu les vacances, une montée en charge très rapide du nombre de tests pour atteindre 1 million de tests par semaine. Désormais, la situation devrait s'améliorer d'ici la fin du mois, promet le ministre. Bien conscient, dit-il, que l'arme du dépistage est cruciale face à cette remontée des cas, qu'on ne peut quand même pas comparer à ce stade au printemps dernier. La diffusion du virus, pour l'instant, est bien plus lente.
Le facteur, vous savez, le facteur R. Combien de personnes je vais contaminer en une semaine? Ce R, il était à 3,4 pendant le printemps, pendant le pic de l'épidémie. Aujourd'hui, même si le virus diffuse, il est à 1,3. Pourquoi? Parce que nous avons les masques, parce que nous avons les tests, parce que nous lavons les mains, parce que nous réduisons nos contacts sociaux. Et donc, nous sommes sur une évolution qui est plus lente, mais qui doit nous alerter.
Elle doit nous alerter, car si la population touchée est majoritairement jeune pour l'instant, et si les hospitalisations et les entrées en réanimation restent modestes, ça ne va sans doute pas durer. Vu le nombre de cas aujourd'hui, il faut s'attendre bientôt à une augmentation des cas graves.
L'hospitalisation et l'admission en réanimation n'est que le reflet de la situation épidémique d'il y a 2 semaines. Et donc, il est évident que dans les 15 prochains jours, il y aura une augmentation, pas massive, mais il y aura une augmentation quand même du nombre de cas graves, d'hospitalisation et d'admission en réanimation.
Olivier Véran précise qu'en termes d'équipement, les hôpitaux sont prêts à recevoir jusqu'à 29 000 malades. Il appelle les Français à la prudence, au port du masque et il espère un vaccin au plus tard au printemps. Il exclut en tout cas pour l'heure toute idée de reconfinement général.
Le Conseil d'État examinera demain la demande de l'État pour maintenir les obligations du port du masque à Lyon, Villeurbanne et Strasbourg. L'État a fait appel des décisions des tribunaux administratifs dont dépendent ces 3 villes. Les tribunaux avaient cassé les arrêtés préfectoraux rendant le port du masque obligatoire et demandé un nouvel arrêté limitant le port du masque aux rues les plus fréquentées. Et puis dans les Bouches-du-Rhône, la fermeture des bars et restaurants est repoussée à 00h30 au lieu de 23h. Le préfet des Bouches-du-Rhône a adapté les mesures anti-Covid prises au mois d'août. Les universités d'été du parti Les Républicains, endeuillées par l'annonce de la mort d'Antoine Ruffenac, l'ancien maire du Havre à l'âge de 81 ans. Christian Jacob, le président des Républicains, a publiquement partagé avec les militants cette triste nouvelle et François Baroin, le maire de Troyes, invité vedette de ces universités d'été, a salué un maire extraordinaire. On écoute François Baroin.
À l'annonce de son décès, juste avant de rentrer dans cette salle pour vous rejoindre, on s'est regardé avec Christian et on n'a pas oublié cette intelligence, cette malice, cette dignité, cette élégance du regard d'Antoine Ruffenac lorsqu'il était directeur de campagne de Jacques Chirac en 2002 et qui, pour rassembler toute la famille dans un premier temps et ensuite affronter Le Pen dans un second mouvement, avait la distance nécessaire. C'était un maire du Havre extraordinaire. La ville du Havre est une ville historiquement communiste. Il a sorti les communistes de leur folie de projet marxiste du Havre. Il a reconstruit, il a redéfini des politiques publiques de proximité. Il a fait corps avec le Havre. C'est l'histoire du Havre et c'est aussi l'histoire de notre famille. C'est une part de nous-mêmes qui s'en va, mais c'est aussi une part de nous-mêmes qui est transmise à vous, la relève des Républicains.
François Baroin au Port-Marly. Alors François Baroin était très entendu par les militants venus nombreux pour l'écouter avec une seule question en tête. Sera-t-il candidat à l'élection présidentielle? Eh bien, on n'en sait pas plus, Élodie Forêt.
Oui, c'est un François Baroin stoïque qui est monté sur scène, accueilli par son ami, frère de lait de Chiraki, comme il dit, le patron du parti Christian Jacob.
Je vais inviter à monter sur l'estrade quelqu'un qui a un petit peu de pression sur les épaules là, depuis quelques jours. Mais, vous savez, il a le sang-froid, la compétence, l'expérience et puis un caractère bien trempé pour résister à tout cela.
Le ton est donné, François Baroin, comme prévu, ne dira rien. Un jeune militant tente malgré tout sa chance.
Serez-vous candidat à l'élection présidentielle de 2022 ?
Je vais pas vous répondre. Et je suis naturellement sensible à vos encouragements.
François Baroin qui justifie son silence par la crise actuelle. Personne, selon lui, ne s'intéresse pour le moment à la présidentielle, mais son discours a parfois le ton d'une profession de foi. Louis, jeune militant, est sous le charme.
J'adorerais que François Baroin soit notre candidat pour 2022. Il a à la fois l'expérience, le charisme, vous l'avez bien vu dans la salle, tout le monde en serait enchanté. Moi, je vois absolument en aucun cas quelqu'un qui dit « non, je ne veux pas y aller ».
Des militants qui repartent donc ce soir de cette rentrée plus incertain que jamais sur celui ou celle qui incarnera la droite en 2022.
Élodie Forêt au Port-Marly avec Éric Audra. Malaise à Europe 1 à l'annonce de l'arrivée d'un rédacteur en chef de Valeurs Actuelles. Louis de Raknel a annoncé sur Twitter qu'il quittait la rédaction en chef de Valeurs Actuelles pour rejoindre le service politique de la station. La société des rédacteurs d'Europe 1 s'oppose farouchement à cette nomination. Facebook a bloqué aujourd'hui la diffusion vidéo d'Alain Coq, ce militant pour une fin de vie digne et atteint d'une maladie incurable, a renoncé la nuit dernière à ses traitements et à toute alimentation. Son agonie ne sera pas retransmise. Un porte-parole de Facebook explique que les règles de la société ne permettent pas la représentation de tentatives de suicide. À l'étranger, Donald Trump met fin aux formations contre le racisme dispensées jusqu'à présent dans l'administration fédérale. Il s'agit, selon le président des États-Unis, de propagande clivante et anti-américaine. Cette annonce intervient alors que la campagne électorale est marquée par un mouvement de protestation sans précédent contre le racisme et les violences policières aux États-Unis. New York, Benjamin Hilly.
C'est écrit dans cette note du Bureau de la gestion et du budget de la présidence rendue publique hier. Donald Trump exige que les agences fédérales cessent d'utiliser l'argent des contribuables pour des sessions de formation véhiculant, selon la Maison-Blanche, une propagande clivante, anti-américaine, évoquant le privilège blanc. Cette note pointe du doigt les millions de dollars dépensés et affirme que dans ces formations, les fonctionnaires apprennent que pratiquement tous les blancs contribuent au racisme. Une décision qui s'inscrit donc dans un contexte de tension croissante à l'approche de la présidentielle, alors que les manifestants les affrontements liés au mouvement contre le racisme Black Lives Matter continuent de secouer le pays. Donald Trump ne cesse d'agiter le spectre du chaos et de l'anarchie pour galvaniser ses partisans. Joe Biden, lui, joue la partition inverse, bien sûr. Cette semaine, dans une église de Kenosha, Wisconsin, il a promis de se battre pour l'égalité raciale. Il faut s'attaquer au péché originel de ce pays, dit le candidat démocrate. C'est-à-dire l'esclavage et tous ses vestiges.
Benjamin Lee à New York pour France Inter. Comme promis, on retourne sur le Tour de France, 8e étape dans les Pyrénées, entre Cazères-sur-Garonne et Loudonvielle. Victoire du Français et Savoyard Nance Peters. On attendait du spectacle et les favoris du peloton ont été au rendez-vous. Bonsoir Fanny Le Chevestrier.
Bonsoir Frédéric.
Alors en direct sur la route du Tour, enfin une étape animée, mais avec une désillusion pour Thibaut Pinot, Fanny.
Et c'est vrai qu'on a le cœur bleu fracturé en deux hein, ce soir. D'un côté, la joie d'un homme, d'une équipe à G2R la mondiale. Vous l'entendez, enfin récompensé l'équipe à G2R la mondiale par la victoire de Nance Peters, 26 ans, un bébé à G2R coéquipier de Romain Bardet, formé depuis tout jeune au sein de l'équipe savoyarde et qui gagne dès son premier tour sous le regard ému, on le comprend, de son manager Vincent Lavenu.
On a eu le temps de sécher nos larmes. Pour Nance, pour l'équipe, pour les partenaires, quand on vient sur le tour, évidemment, qu'on gagne une étape, c'est le sésame. Tu sais que quand on a gagné une étape, on respire mieux tout de suite.
Et quelle victoire hein, en solitaire pour la première étape des Pyrénées. Et puis, il y a, vous l'avez dit, la tristesse, celle de Thibaut Pinot, rattrapé par ses douleurs au dos suite à une chute lors de la première étape et qui a traîné sa peine dans le port de Balèze, finissant l'étape à plus de 19 minutes des favoris. Pinot, qui, on annonçait pourtant un tour fait pour lui, abandonne tous ses rêves au pied de la montagne.
J'ai tellement mal au dos, j'ai pas de force, j'arrive pas à pédaler. Je vais pas quitter le tour, en aucun cas j'ai eu cette idée, mais voilà, c'est une journée compliquée. Je vais juste m'excuser auprès de mes équipiers, à ceux qui me supportent, parce que ça fait beaucoup d'échecs pour tout le monde. Il y a trop d'échecs pour moi en ce moment.
Thibaut Pinot, vous l'entendez, est très ému, qui tient tout de même à être au départ demain de la 9e étape, mais loin, très loin des meilleurs, avec Adam Yates, toujours en jaune, et désespoir tricolore tout de même, Frédéric Guillaume-Martin, encore 3e, et Romain Bardet, 4e.
Fanny Lechevestrier avec Hélène Langlois pour les moyens techniques. Merci. L'autre grand rendez-vous sportif du jour, c'est le match ce soir en Ligue des Nations entre l'équipe de France et la Suède à Solna. Ça fait 10 mois qu'on n'a pas vu l'équipe de France de football, avec ce soir ce grand retour chez les Bleus d'Adrien Rabiot, finalement pardonné de n'avoir pas voulu être réserviste pendant la Coupe du Monde. Adrien Rabiot est titulaire, un retour que le service communication des Bleus a tenté d'orchestrer au mieux, Alexandre Vaux.
À leur arrivée à Clairefontaine lundi, les images des joueurs montrent un bonjour timide entre Didier Deschamps et Adrien Rabiot. Mais depuis, le sélectionneur et le joueur ont eu l'occasion de parler et Adrien Rabiot de s'exprimer, non pas face aux journalistes, puisque aucun n'est autorisé à venir au centre d'entraînement des Bleus à cause du Covid, mais face caméra, filmé par le service de communication des Bleus. Un exercice plus simple pour le milieu de terrain de la Juventus Turin, qui a pu ainsi donner sa version des faits.
Il ne s'est rien passé entre le sélectionneur et moi, c'était rien de personnel. Donc quand j'entends ce qu'il va présenter des excuses, ça me paraît un peu bizarre.
Pourtant, si on remonte le temps, en mai 2018, Didier Deschamps avait parlé de grosses erreurs quand le jeune Rabiot avait contesté son choix. La maman du joueur, qui est aussi son agent, s'en était mêlée. Il y a eu ensuite son départ houleux du PSG l'été dernier et un temps d'adaptation nécessaire à Turin. Mais depuis la sortie du confinement, le milieu de terrain de 25 ans a retrouvé un très très bon niveau avec son club, fait remarquer le sélectionneur des Bleus.
Ce qui a changé, c'est que les performances qu'il réalise avec son club le positionnent de nouveau.
La balle est désormais dans le camp d'Adrien Rabiot, qui tient l'occasion de se relancer, voire de lancer véritablement sa carrière en bleu après 6 sélections.
Alexandre Vaux, le festival du film américain s'est ouvert hier soir à Deauville, 100 stars américaines, mais avec une programmation très riche, plus de 70 films seront projetés. Cette 46e édition n'est plus seulement un festival du film américain, en raison de l'épidémie de coronavirus et de l'annulation du festival de Cannes. Deauville est devenu cette année un festival international avec des films peut-être un peu effrayants au programme ce week-end. Eva Béton à Deauville.
La fin du monde, un loup-garou et des zombies, premier week-end décoiffant mais pas sinistre à Deauville. Jonathan Nociter, un des rares Américains présents ici, car il vit désormais en Italie, raconte dans Last Words, avec moins d'effroi que de tendresse désolée, comment en 2086, la Terre étant devenue stérile, la dernière poignée de survivants est décimée par une vilaine toux jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un seul homme sur Terre. On voit des films cette année de partout à Deauville et aussi de France et des Pyrénées. Teddy des frères jumeaux Boukerma réactive avec humour, talent et là encore de la tendresse le mythe de l'homme doté de pulsions animales tout en parlant de déclassement social. Et on attend de voir Peninsula du coréen Yeon Sang-ho, auteur du fameux Dernier train pour Busan. Nous sommes quelques années après, il ne reste que des zombies sur la péninsule. Affaire à suivre. À Deauville, Eva Bétan, France Inter.
Notre rendez-vous du samedi soir avec Christine Siméone, le nez dans son smartphone. Bonsoir Christine.
Bonsoir.
On vous a surpris cette semaine en train de lire des histoires sous forme de feuilletons, des polars, des histoires d'amour et même des témoignages de vie. Est-ce que c'est une autre rentrée littéraire que vous avez suivie, Christine?
Je dirais que c'est plus une expérience qu'une rentrée. J'ai testé l'application Rocambole qui propose des fictions en série. Et je me pose cette question, Frédéric, sommes-nous en train de voir naître une nouvelle génération d'auteurs et d'autrices qui écrivent des histoires qui se lisent par petits bouts de 5 minutes? J'ai donc parlé avec Anne Langlois et Thibaut de Marcois qui, lui, a par exemple coécrit avec Anne Langlois en tandem la série Merowig, un polar qui se situe à Reims autour de la basilique de Saint-Rémy. Ces deux-là, ex-étudiants en histoire, l'un a été facteur et l'autre libraire, ont tout lâché pour se consacrer à l'écriture.
Alors on écoute Anne Langlois et Thibaut de Marcois. Que préfèrent-ils, écrire des romans ou bien ce nouveau type de littérature?
Moi, je trouve que c'est plus simple, que c'est plus enthousiasmant aussi. Le fait d'avoir écrit des romans avant, finalement, me fait penser que je suis plus faite pour une écriture comme celle des feuilletons, plus dynamique.
C'est vrai que c'est pas du tout la même façon de travailler. C'est assez intéressant, justement, de rythmer le récit, de chercher le cliffhanger ou le twist à chaque fin d'épisode. Donc, avoir un format plus court qui me permet de faire plus de projets différents, ça me plaît énormément.
Alors, côté lecteur, l'expérience n'est pas la même non plus que dans un livre de 500 pages. Ici, pas de digression, de rêverie.
Pour être sur l'efficacité, on peut pas vraiment avoir un épisode qui soit plus dans la contemplation. Ça ouvre moins la porte aussi au flashback, à ce genre de choses.
Mais voilà, on peut quand même faire passer beaucoup de choses par les personnages.
Christine Simeone, on sait que les romanciers vivent mal, à part quelques-uns de leur plume. Est-ce le cas aussi pour ces écrivains du numérique?
Pour l'instant, même s'ils sont payés en fonction du nombre de lectures sur écran, en plus d'un avaloir, le public n'est clairement pas assez nombreux pour faire vivre ces auteurs à part entière avec leurs histoires. Mais l'ambition des fondateurs de Rocambole, par exemple, c'est de gagner en lectorat, de recruter des auteurs capables de ficeler des histoires qui nous rendront addicts et amener à la lecture ceux qui jamais encore ne sont entrés en librairie.
Plus de détails et d'interviews sur franceinter.fr. Merci Christine Simeone, ma vie connectée, à samedi prochain. Le temps pour demain.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R la mondiale. Avec Via Santé, plus que jamais, devenez acteur de votre santé. Et vous aujourd'hui, comment ça va?
Plus frais et nuageux, sauf dans le sud-est, Jean-Michel Golinski.
Ayant intéressé aujourd'hui la moitié nord du pays, l'air frais va gagner demain du terrain vers le sud-ouest et les frontières de l'est. Conséquence, les températures vont afficher 17 à 25 degrés l'après-midi entre la Manche, le Quercy et Rhône-Alpes, en passant par 20 à Lille, 21 à Tours, Brest, Besançon et Strasbourg, 22 à Paris ainsi qu'à Cognac, Bordeaux et Dijon. Seul le quart sud-est va conserver des valeurs beaucoup plus estivales, avec 31 à Toulon, 30 à Nîmes et Montpellier, 27 sur la Corse. Un dimanche à nouveau bien bleu autour de la Méditerranée, mais Mistral et Tramontane vont se lever vers 70 km/h. Sur le reste du pays, la journée sera assez variable dans l'ensemble, sous un ciel souvent plus gris entre la Garonne et les Pyrénées. À proximité de la Manche et sur les Alpes du Nord, le risque d'ondées sera plus marqué l'après-midi, ainsi que la tendance orageuse sur l'est de la chaîne pyrénéenne.